Notre invité, dans quelques minutes, l'Afrique a son rôle à jouer dans le déploiement de l'intelligence artificielle. C'est ce que nous dit l'enseignant-chercheur camerounais Paulin Melatagia. Il est donc notre invité ce matin. Entretien à suivre dans 3 minutes. Mais d'abord, le journal des sports. Avec Antoine Grenier ce matin. Bonjour Antoine.
Bonjour Andréane.
En football, le championnat de France de Ligue 1 et Amine Gouiri de plus en plus indispensable du côté de Marseille.
Arrivé cet hiver, l'international algérien a rajouté 2 passes décisives à son total pour une victoire 2-0 de l'OM sur Angers pour la 21e journée de Ligue 1. Voilà qui est le signe d'une très bonne adaptation, comme l'a confié Gouiri à DAZN.
Franchement, je me sens très bien. J'ai été très bien accueilli par tout le monde. Et ouais, c'est vrai que je prends du plaisir à jouer dans cette équipe. Que ce soit devant Andy, soit à gauche, il me demande de prendre du plaisir et dans les 30 derniers mètres de faire pas aller mon instinct. Et franchement, je bosse tous les jours en entraînement pour justement chaque week-end reproduire ce genre de performance. Et je pense que ici, je suis dans les meilleures conditions pour être régulier.
Grâce à ces internationaux algériens, Amine Gouiri et Ismaël Benacer, autre recrue hivernale de l'OM, Marseille est solide 2e du classement pendant que Lyon a dominé Reims 4-0, que Strasbourg s'est imposé sur Montpellier 2-0 et qu'Auxerre a concédé le nul de partout face à Toulouse.
En Espagne, un but plein d'émotions pour Mukhtar Diakabi.
L'international guinéen de Valence, titularisé pour la première fois en Liga depuis sa blessure au genou et sa pause forcée de presque un an. Diakabi, buteur à la 41e minute pour le 2-0 contre les Ganes et qui a laissé échapper des larmes de joie et de soulagement avant d'être remplacé à la 58e minute sous les vivas du Mestalla.
On termine avec le Cameroun. C'est une première. La ville de Douala accueille jusqu'au 16 février prochain les championnats d'Afrique de badminton.
28e édition d'une compétition habituellement dominée par l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud ou encore le Nigeria. 17 pays participent avec l'espoir d'accrocher une place qualificative pour les championnats du monde et les prochains Jeux Olympiques de Los Angeles. Joël Wedem.
Ce dimanche, au complexe multisport de Japoma, les équipes déjà présentes à Douala étaient en plein entraînement. Antoine Ouna, le coach de la formation féminine du Cameroun, supervise la préparation du pays hôte.
Nous sommes en train de peaufiner leur tactique et leur technique. Nous cravachons leur esprit pour représenter valablement le Cameroun à cette édition.
Raja Roufdi, directrice des opérations à la Confédération africaine de badminton, est également présente. Elle veut s'assurer que la salle de 3000 places répond à toutes les normes techniques.
Très belle salle, adaptée au badminton, parce qu'elle n'est pas trop grande. Et en plus, c'est du parquet par rapport aux articulations pour les joueurs. C'est ce qu'il y a de mieux. En plus, il y a de la climatisation.
Cette compétition est qualificative pour les championnats du monde et les prochains Jeux olympiques. Mais pour la Confédération africaine de badminton, c'est également l'occasion de promouvoir cette discipline qui est encore nouvelle en Afrique.
Le badminton en Afrique évolue doucement. On travaille dur pour former les coachs, former les jeunes générations. Les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 est aussi un tremplin qu'on utilise pour faire évoluer le badminton dans le continent.
C'est la première fois que ces championnats, généralement dominés par les pays du Maghreb, sont organisés en Afrique au sud du Sahara. Une excellente occasion pour les Camerounais de découvrir et de pratiquer cette discipline, inscrite au JO depuis 1992. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Des championnats d'Afrique de badminton qui débutent par les épreuves mixtes par équipe avec au programme des matchs du matin, l'île Maurice face à la Guinée équatoriale, l'Égypte contre le Cameroun et l'Afrique du Sud opposée à l'île de la Réunion.
Merci Antoine Grenier, à tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Et à la une de ce lundi 10 février, ce sommet international sur l'intelligence artificielle à Paris. Outre Emmanuel Macron, seront présents le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, ou encore le vice-président américain J.D. Vance, des patrons de la tech aussi comme Sam Altman à la tête d'OpenAI, créateur de ChatGPT. Hier soir, le président français a annoncé 109 milliards d'euros d'investissement dans les prochaines années en France pour développer l'intelligence artificielle. En République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo a appelé hier au dialogue pour sortir de la crise dans l'est du pays. Ce dimanche, au lendemain d'un sommet organisé à ce propos, une relative accalmie était observée sur le terrain après plusieurs jours de combats opposant l'armée congolaise et ses alliés au M23, soutenu par le Rwanda. En Équateur, le dépouillement des bulletins de vote continue après la présidentielle d'hier et selon les estimations, le sortant Daniel Noboa et sa rivale de gauche, Luisa González, sont au coude à coude d'un deuxième deuxième tour devrait donc s'imposer. Et puis la finale du Super Bowl hier soir à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, les Eagles de Philadelphie l'ont emporté sur les Kansas City Chiefs 40-22, finale qui s'est déroulée pour la première fois depuis la création de cette compétition en présence du président américain en exercice, Donald Trump, qui dans l'avion pour la Nouvelle-Orléans a annoncé l'établissement prochain de nouveaux droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis, plus 25%. C'est ce qu'a promis Donald Trump. On en parlait à l'instant avec notre grand invité Afrique ce matin, en plein sommet international sur l'intelligence artificielle à Paris, alors que dirigeants et patrons de la tech sont attendus aujourd'hui et demain dans la capitale française. On s'intéresse à la place qu'occupe cette technologie sur le continent africain. Paulin Melatagia est enseignant-chercheur camerounais à l'université de Yaoundé 1, responsable de l'équipe de recherche intelligence artificielle et sciences des données. Il répond aux questions de Pierre Firsion.
Paulin Melatagia, bonjour.
Bonjour.
Dans de nombreux domaines, l'intelligence artificielle va profondément modifier nos sociétés. Le continent a-t-il commencé sa mue, selon vous ?
De mon point de vue, oui, le continent a déjà commencé sa mue. On a énormément d'initiatives sur le continent, on a énormément de start-up, énormément d'organisations aussi publiques qui commencent à investir dans le développement d'applications sur l'intelligence artificielle. Et on a notamment des applications dans le domaine de la santé, le transport, l'agriculture qui sont proposées quasiment, on va dire, tous les mois dans le cadre de compétitions, dans le cadre de hackathons pour adresser des problèmes spécifiques à l'Afrique.
Vous diriez que les dirigeants africains ont pris la mesure de ce qui est en train de se passer ?
On va dire que de manière générale, au niveau de l'Union africaine, il y a déjà un ensemble de mesures, il y a déjà un ensemble de documents qui définissent une stratégie à l'échelle du continent pour tout ce qui devrait rentrer dans le développement de l'intelligence artificielle au niveau du continent. On voit également dans les différents pays un ensemble de mesures du point de vue institutionnel qui sont prises, notamment la création d'autorités en charge de la protection des données privées, la mise en place d'autorités. On voit également des pays qui mettent en place des infrastructures comme les centres de calcul qui permettent de créer ou de manipuler les données pour générer des intelligences artificielles. Donc oui, dans la plupart des pays, les gouvernements sont conscients des enjeux et des opportunités de l'intelligence artificielle, bien que ça reste assez disparate d'un pays à l'autre.
Justement, quels sont les pays les plus en pointe aujourd'hui sur le continent ?
Selon le classement Oxford Insight, les pays les plus en pointe aujourd'hui en Afrique en termes de préparation et de mise en œuvre de l'IA sont pour l'Afrique du Nord, notamment l'Égypte, la Tunisie et le Maroc. Et au niveau de l'Afrique subsaharienne, on peut citer la Mauritanie, l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Sénégal et le Bénin.
Paulin Melatagia, est-ce que l'accès à Internet n'est tout de même pas un frein au développement de l'intelligence artificielle sur le continent ?
Oui, effectivement, vous avez raison. On a quelques problèmes. On a notamment le problème de la connectivité parce qu'il est important, notamment pour les startups, de pouvoir accéder à la donnée. Et pour que ça se fasse de manière assez fluide, il faut que la qualité Internet soit très bonne. Un autre problème que l'on peut avoir ou que l'on observe, c'est celui du manque d'infrastructures de calcul. Pour faire des IA, on a besoin de puissance de calcul. Et malheureusement, en Afrique aujourd'hui, on a très peu des déploiements de supercalculateurs qui permettent notamment de mouliner l'ensemble des données pour générer les IA. Mais un autre frein, et il n'est pas des moindres, c'est celui de la donnée. Pour créer des IA, notamment des IA qui résolvent des problèmes pour l'Afrique, on a besoin de données africaines. Or, malheureusement, lorsqu'on regarde les chiffres, eh bien, on a très peu de données qui sont collectées sur l'Afrique. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on observe les intelligences artificielles les plus connues comme ChatGPT et DeepSeek, on se rend compte que par rapport aux réalités africaines, ces IA-là ont énormément de biais. Et ces biais sont la conséquence du faible volume de données sur le contexte africain mouliné par ces modèles.
Paulin Melatagia, y a-t-il des projets d'intelligence artificielle 100% africaine ?
On a déjà des propositions d'intelligence artificielle 100% africaine, mais ça reste très faible, ça reste très peu. Et je vais vous prendre le cas des langues africaines. Aujourd'hui, la présence des langues africaines dans le domaine du numérique, dans le domaine des solutions d'IA, elle est très faible. Et pourtant, on sait qu'on a une grande population rurale qui parle ces langues, qui sont, on va dire, analphabètes du point de vue des langues coloniales. C'est à peu près 26% de la totalité des adultes qui sont analphabètes, qui vivent en Afrique. Et donc, imaginer des solutions d'intelligence artificielle qui manipulent, qui parlent ou qui comprennent les langues africaines, ce serait très important pour ces populations-là. Malheureusement, les langues africaines sont dites sous-dotées. Il n'y a pas suffisamment de données numérisées qui permettent donc de créer des IA pour l'Afrique.
Quel message l'Afrique doit-elle faire entendre lors d'un sommet comme celui qui s'ouvre ce lundi à Paris ?
Pour ma part, le message fondamental est que l'Afrique a son rôle à jouer dans le développement de l'intelligence artificielle pour la résolution des problèmes sociétaux africains, mais également de contribuer à développer des concepts nouveaux, à développer des connaissances nouvelles pour que l'IA, du point de vue global, puisse avancer.
Paulin Melatagia, merci.
Paulin Melatagia, enseignant, chercheur camerounais à l'université de Yaoundé, un grand invité Afrique de RFI ce matin, entretien avec Pierre Firsion. Votre chronique matière première sur RFI, on parle ce matin d'un métal peu connu du grand public et pourtant très utilisé dans l'industrie chimique et dans l'électronique, le bismuth, métal qui sert aussi de pigment pour donner le jaune des engins Caterpillar. Le bismuth est produit à 80% en Chine et il fait partie de la liste de Pékin dévoilée la semaine dernière des métaux soumis à des restrictions d'exportation. Les explications de Marie-Pierre Olfan.
Pour l'instant, la Chine s'en tient à des mesures de contrôle. Les exportateurs doivent à partir de maintenant obtenir une licence et en retour spécifier à quel client ils vendent et pour quel usage civil ou militaire. Le robinet n'est donc pas fermé, mais le temps que les exportateurs chinois s'organisent, il pourrait y avoir une suspension des ventes, un mois, deux mois, voire trois. Dans les 100 prochains jours, résume un expert, il vaut mieux ne pas avoir de bismuth à acheter. La Chine produit 80% des volumes et pour en trouver, il faudra se tourner vers les deuxième et troisième producteurs, la Corée du Sud et le Laos, mais leur production est minime par rapport à celle du géant asiatique. Aujourd'hui, à 12 dollars le kilo environ, le bismuth fait partie du club des métaux bon marché, ce qui veut dire que même si son prix augmente, et c'est déjà le cas, l'impact devrait être mineur pour les industriels, sauf s'ils n'ont pas de stock et qu'ils doivent lui trouver un substitut, car rares sont les alternatives aussi peu onéreuses. Ceux qui vont pâtir d'une offre qui s'annonce plus serrée dans les prochains mois sont les industriels des secteurs de la pharmacie, de la cosmétique, mais aussi ceux qui utilisent le bismuth comme pigment jaune ou encore dans des soudures pour remplacer le plomb. Les pays européens sont avec les États-Unis les premiers importateurs de ce métal et donc les plus à risque. L'Europe les peut-être doublement en raison de l'absence de stock public de sécurité. Ce n'est pas faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme, disent aujourd'hui ceux qui militent pour la création de tels stocks. Ces nouvelles restrictions chinoises doivent être prises comme un signal, car même pour des métaux qui sont utilisés en très faible quantité comme le bismuth, quand la dépendance à la Chine atteint un tel niveau, il n'y a pas de plan B.
Marie-Pierre Olfan. Chaque jour, notre grand reportage sur RFI 20 minutes, réalisé par nos correspondants et nos envoyés spéciaux à travers le monde. Aujourd'hui, on parle de la France, alors que les plans sociaux se multiplient dans le pays. Partout sur le territoire, ce sont entre 250 000 et 300 000 emplois qui sont menacés dans de nombreux secteurs. Nathanaël Vitran est donc allé à la rencontre des victimes de cette crise, notamment à Cholet, dans l'ouest du pays, où les salariés de Michelin ont appris quelques semaines avant Noël la fermeture de leur usine. Industrie, commerce, bâtiments, services, portrait d'une France en crise. C'est un grand reportage de Nathanaël Vitran. En voici un extrait.
19 novembre 2024, nous sommes à Cholet, 50 000 habitants. C'est une ville moyenne entre Nantes et Poitiers. Et je me trouve dans la zone industrielle. L'usine Michelin se repère de loin avec son immense cheminée rouge et blanche. Devant l'entrée, difficile de ne pas remarquer cette potence où se balance au bout d'une corde un mannequin en tenue d'ouvrier. Un immense tas de pneus bloque le passage. Il n'est plus en feu, les pompiers sont intervenus. Mais ils n'ont pas éteint la colère des salariés. Il y a une dizaine de jours, la direction de Michelin a annoncé la fermeture de deux sites, celui de Vannes et celui de Cholet.
On se sent trahi parce qu'en fait on a donné beaucoup d'années. Moi j'ai travaillé en 4-8, je travaille le samedi, le dimanche, enfin on s'est sacrifié pour Michelin.
Ludovic Robert, délégué syndical CFDT.
Être viré en même pas 10 minutes, c'est je le souhaite à personne en fait, même pas à mon patron. Attendre quelques semaines avant Noël pour mettre 1200 familles au chômage, c'est pathétique.
À l'arrière, les grilles sont fermées, protégées de part et d'autre par les salariés. Ce camion qui devait livrer les matières premières à l'usine est empêché de rentrer.
Camarades, là, La direction, elle a essayé de refaire passer un camion après nous l'avoir fait à l'envers ce week-end. Faut qu'on explique ça à tout le monde quand même.
Je m'appelle Bastien Youx, je suis militant à la CGT, à Michelin. Je suis ouvrier, je fabrique de la bande de roulement, la partie extérieure du pneu. Depuis deux semaines, il y a 150-200 travailleurs qui se relaient pour tenir le piquet, le jour, la nuit. Ça fait deux semaines qu'il n'y a rien qui rentre, qu'il n'y a rien qui sort, parce que dans six mois, on est tous au chômage. Et donc, on n'est pas prêt à se laisser partir sans bruit. Et ben là, vous voyez, on est rassemblés, les salariés, pour empêcher le passage des camions.
Ah, le camion a fini par rebrousser chemin. Vous l'entendez sous les applaudissements des ouvriers. Une joie de courte durée. Ils savent que le site est condamné, faute d'investissement.
Disons que oui, ils ont coupé les robinets des investissements ici. On a des bâtiments qui sont vétustes. L'atelier des cuissons qui s'écroule même, c'est un atelier qui est sur deux étages. C'est bourré d'amiante, le sol s'écroule. Oui, donc c'est préparé depuis très très longtemps. Oui, ça vient pas du marché chinois qui se réveille ou quoi que ce soit.
Ce grand reportage signé Nathanaël Vitran a retrouvé aujourd'hui en intégralité sur RFI à midi 10, heure de Paris et à 20h40 ou en podcast sur notre site ou sur notre application RFI Pure Radio.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Bénin, la révision constitutionnelle de 2019 a-t-elle remis à zéro le nombre de mandats du président Talon ? La Cour constitutionnelle a été saisie pour répondre à cette question alors que le chef de l'État a plusieurs fois déclaré qu'il ne sera pas candidat en 2026.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
A tout à l'heure sur RFI.
Coula, coula, coula.
Couleur tropicale, Claudie Ciard.
Ce lundi 10 février, Koffi Olomidé fera ses couleurs tropicales et annoncera son concert-événement prévu le 19 juillet à l'Hippodrome de Vincennes près de Paris. L'occasion de parler musique, bien sûr, et d'évoquer la situation en RDC. Koffi Olomidé dans Couleur tropicale, c'est toujours un événement.
Couleur tropicale, Claudie Ciard.
Du lundi au vendredi à 20h10 TU sur RFI.